Donc Pierre-Jean Rubini, je suis le président de la CRES de Corse. Mais ce n'est pas une question. Bien sûr, je connais l'expérience de Paul Jot. C'est simplement un témoignage, puisqu'il se trouve que nous gérons aussi un pôle mobilité dans le cadre d'un chantier d'insertion. Alors, d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que, en fait, nous sommes opérateurs et non pas plateforme, puisque on a fait le même constat que vous, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entreprises se sont installées sur la périphérie de la ville d'Ajaccio, donc ce qu'ils appellent maintenant les zones commerciales ou les zones artisanales, et qu'un certain nombre de jeunes ou de personnes sans emploi ne pouvaient pas s'y rendre. Tout simplement parce que le bus s'arrêtait un peu avant. Ils y ont installé aussi les hypermarchés qui ferment à 8h30, le soir à 20h30. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes, donc de femmes qui y travaillent et qui ne peuvent pas rentrer chez elles parce qu'il n'y a plus de bus. Et puis, un secteur, Paul Jot l'a dit tout à l'heure, c'est valable en milieu rural, mais c'est valable aussi en milieu urbain, toute la question de l'aide à domicile, où il y a un potentiel important donc de femmes qui y travaillent, sauf que les offres d'emploi, c'est permis de conduire obligatoire. Donc on a une structure de mobilité où on a un garage associatif, c'est-à-dire qu'on fait les réparations à tarif social, on ne touche pas au moteur, bien sûr, puisque là aussi, il faut savoir doser en termes de compétences, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire avec des personnels en insertion ou ce qu'on ne peut pas faire. On a un parc de scooters qu'on loue à tarif social et puis on a des voitures aussi qu'on loue à tarif social. On a rajouté à côté du microcrédit social. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'un certain temps, lorsque les personnes retrouvent donc un salaire, l'idée c'est d'acheter le véhicule, sauf qu'elles n'ont pas les moyens de l'acheter. Donc c'est un ensemble qui fonctionne. Et je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vraiment d'un côté une offre et de l'autre côté une demande. Et qu'il faut une médiation, quelqu'un au milieu qui fasse que les choses puissent se faire. Et on se pose aussi la question donc de l'élargissement, mais cette fois-ci plus sur le secteur rural. Mais comme le disait Paul Jot tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile parce que les communications entre... Vous avez certains villages où il y a 50 habitants. Il y avait à l'époque des transports en commun. On descendait à Ajaccio le matin, on remontait le soir. C'est fini, quoi. Donc on a vraiment un problème de mobilité qui est aussi un problème pour aller au boulot.
Je vous remercie. Vous voulez répondre peut-être, Émilie ?
C'est là où la réflexion elle doit être un petit peu plus poussée, à savoir, nous, on œuvre finalement par rapport aux personnes en insertion. Et dans l'ESS, on en discutait, c'est aussi la place du consommateur ou de l'usager lambda. Et je pense que là, il y a quelque chose aussi peut-être à réfléchir sur le rôle qu'il peut jouer. On parle du covoiturage. Et je pense que notre démarche, elle doit finalement s'élargir un peu plus à la place vraiment de l'usager dans son rôle auprès du demandeur d'emploi et au service qu'il va pouvoir amener, que nous, à un moment, on ne pourra plus, ou parce que ça sera trop excessif. Bon.
Je vous remercie. Peut-être une autre réaction dans la salle. Monsieur, je sais.
Merci, oui. Hubert Germain, Montagne-Abi, Emploi Solidarité. C'est la question, justement, de la mobilité qui m'interpelle un petit peu. Madame disait qu'il y avait différentes formes d'action et d'activité. Nous, dans notre secteur, moyenne montagne, loin de toute forme de commodité, mal desservi par les transports en commun, nous avons des communes chez nous, dans le Haut-Canton, dans le Haut-Canton secteur de Pays de Grâce, des communes qui n'ont pas du tout de passage de transport en commun. Alors, pour moi, par exemple, sur le plan de mon association, nous incitons les collaborateurs à faire du covoiturage. Mais la question, en fait, c'est celle-ci. Vous avez parlé d'auto-école sociale et d'auto-école commerciale. Moi, j'aimerais savoir ce que vous entendez par auto-école sociale, d'une part. Ensuite, nous avons des gens qui n'ont pas de permis de conduire, mais qui aimeraient le passer. Bon, on est à la recherche en permanence de financement pour les aider à passer le permis. Alors, est-ce que vous, à Mobilis, donc, vous êtes en mesure d'apporter des suggestions, peut-être même des solutions ?
Émilie, encore une question sur la mobilité.
Oui, alors, deux questions. Il y a la question du financement, il y a la question du modèle de l'auto-école sociale par rapport au modèle de l'auto-école marchande. On va sur l'auto-école sociale avoir un volet accompagnement beaucoup plus poussé sur la méthodologie de formation au niveau du code et où la place du formateur elle est essentielle. On va avoir le volet accompagnement à côté de la formation, sur la présence au cours, sur la capacité à appréhender les cours de code et aussi à s'inscrire dans la durée. Parce que finalement, le passage du code, c'est, je dirais, 6 mois pour quelqu'un qui va être régulier et voire 8 mois pour quelqu'un qui va avoir des difficultés diverses qui vont l'empêcher de venir régulièrement. Donc il y a déjà toute une méthodologie, une pédagogie dans cette auto-école sociale. Elle va se retrouver aussi après dans le passage de la conduite, hein, où à la différence d'une auto-école commerciale, on ne va pas compter les heures, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un coût supplémentaire dépasser les 20 heures obligatoires. On va avoir sur Mobilis 06 un coût forfaitaire où les heures sont illimitées jusqu'à ce que la personne puisse obtenir le permis, dans une limite qu'on aura fixée ensemble en amont. Donc voilà, le modèle de cette auto-école sociale, c'est s'adapter finalement à la personne qui intègre, en faisant en sorte qu'elle aille jusqu'au bout. Sans contrepartie financière, vu que dès le début, il y aura un prix forfaitaire qui lui sera donné et qui sera unique. Sur la possibilité de payer ce coût forfaitaire. Mobilis 06, grâce à la connaissance des partenaires qui sont sur les territoires, connaissent les aides à la mobilité qui existent, donc peuvent être facteurs pour enclencher cette aide. Les aides qui sont sur le Pôle emploi, qui sont sur une mission locale, qui vont être prises par des organismes de formation, des aides qui vont être par le Conseil général, nous, on est habilités à dire si oui ou non elle est pertinente et si pour ce demandeur d'emploi, elle vaut la peine d'être levée. Ça, c'était votre deuxième question. C'est ça. Il y avait la première. Quel modèle auto-école sociale ? Et la deuxième, c'était quelles étaient les aides qui existaient ?
Je crois que vous avez répondu aux deux questions. Je voudrais, moi, poser une question aussi à Benjamin Borel sur les besoins des entreprises. L'offre que vous proposez au sein de Boussole, est-ce que vous avez des entreprises qui répondent et qui souhaitent aussi profiter de ce réseau de boulangeries solidaires, finalement ? Est-ce qu'il y a une conscience qui est en train de s'élever chez les entreprises là-dessus ?
Alors, oui, clairement, nous, on le voit de deux façons. On intervient donc sur la restauration collective et le lien avec les entreprises se fait de deux façons différentes. On peut avoir des restaurants d'entreprise et donc des structures qui nous sollicitent. C'est le cas notamment sur Marseille avec EDF, où en gros, bon, les restaurants sont gérés par le CCAS, mais EDF est proactif. Et on a eu, lors d'un contact avec l'ancienne formule de la Fondation Agir pour l'emploi d'EDF, on avait été financé par EDF pour l'acquisition d'un four sur Pain et Partage Marseille. Et une des pistes de perpétuation du lien, c'était de pouvoir approvisionner les restaurants d'entreprise de EDF. C'est ce qui est le cas. Le partenariat fonctionne très bien. Ils sont passés d'un pain industriel qui était, alors je peux le dire, mais qui n'était pas de bonne qualité, mais eux aussi le disaient. Donc bon, à un pain qui est, enfin voilà, qui a une autre stature. Et pour le coup, ça fonctionne vraiment pas mal et EDF a été assez proactif pour le développement de l'unité de production qu'on est en train de mettre en œuvre sur Montpellier. Ça a été notre partenaire principal. Et le deuxième lien avec les entreprises qu'on a, il se fait aussi dans le cadre de la restauration collective concédée avec les grands opérateurs de la restauration collective, Sodexo, Elior, Compass. Et pour le coup, Et Lior, notamment, enfin, mon Sodexo est sensible aussi à ces éléments, mais et ça fait écho un peu à ce que disait David ce matin par rapport à la dynamique RSE. C'est clair que la RSE, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la stratégie de développement des structures de l'ESS, mais c'est un effet levier qui est assez intéressant. Et pour le coup, nous, c'est une mise en lien avec Elior qui a été relativement intéressante et qui nous permet aussi de desserrer la contrainte des taux prix que ces grands groupes font sur leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'on va leur vendre du pain, mais on leur vend aussi une certaine conscience citoyenne.
Une image aussi.
Voilà, clairement. Mais c'est vrai qu'ils sont assez preneurs de ces dynamiques circuits courts et d'insertion par l'activité économique.
Très bien, je vous remercie. Une dernière question ou intervention éventuellement, et ensuite nous allons passer... Oui, Monsieur Henry, juste devant. Ensuite, nous passerons à la prochaine table ronde.
Je vous garantis que les questions vont être courtes et les réponses très courtes. Alors, j'en ai une pour Émilie et une pour Benjamin. Pour Émilie, est-ce que chez vous, on peut passer le permis poids lourd et le permis de transport en commun ? Ça, c'est des sources d'emploi. Pour Benjamin, est-ce que vous travaillez ou vous connaissez les paysans boulangers ?
Voilà. Émilie Artigaret.
Oh ben, ça va être très court, non. Non. Non, je n'ai pas encore de moniteur auto-école poids lourd. Mais pourquoi pas ? Mais non, on ne fait pas sur Mobilis.
Alors oui, on les connaît. Et après, nous, dans notre positionnement, l'idée, c'est de ne pas déstructurer les écosystèmes qui fonctionnent bien. Donc notamment, on a par exemple... Alors, c'est un peu en la marge par rapport, mais on a sur certains territoires une organisation d'approvisionnement de restauration scolaire par des artisans boulangers bio. Nous, on ne va pas se positionner en concurrence frontale avec ces réponses-là qui sont déjà existantes. Si c'était le sens de la question.
Vous avez eu votre réponse ?
Oui, sauf que je comprends pas bien la notion de concurrence. Dire, avec 2 hectares, un paysan boulanger, il produit pas des quantités telles que.
Oui, bien sûr, mais sur certains territoires, en fait, on a des organisations. Et là, c'est ce qui est en train de se faire, notamment dans la Drôme. Il y a une structuration, en fait, de réponse à des marchés de restauration collective. Alors, c'est des petits marchés, mais en organisation avec notamment les paysans boulangers et en fait avec des petites unités. Pour les écoles de proximité. Donc nous, l'enjeu, c'est pas dans l'organisation d'une unité de production sur un territoire, c'est de pas venir et de déstructurer des choses qui sont déjà en train de se mettre en place.